Bonsoir, donc nous on appartient au GENEPI, donc c'est le groupement étudiant national d'éducation pour les personnes incarcérées. On est une association qui date de 40, qui existe depuis 42 ans, et initialement notre but c'était d'aller en détention et de faire des cours scolaires. C'était des élèves de grande école qui venaient faire de l'enseignement auprès des détenus. Désormais, on a beaucoup changé d'objectif, on a refusé de faire de l'enseignement, et on fait surtout du socioculturel, parce qu'on a dit à l'administration pénitentiaire qu'on se refusait de compenser et de remplacer des professeurs qui sont diplômés, qui se doivent d'être payés par des bénévoles. Voilà. Donc maintenant, c'est un peu ça. Sauf que, en réalité, on a trois grands piliers. On fait de l'intervention, de l'information, de la sensibilisation auprès du public. Donc, en fait, on va auprès de tout un tas de publics à leur rencontre pour décloisonner tous les clichés qu'on a sur la prison. Donc, on intervient auprès de collégiens, de lycéens, quand on peut, auprès du public, dans la rue, ce qui est un peu plus compliqué pour nous. Et on fait beaucoup moins d'actions en détention, parce qu'on se confronte à l'administration pénitentiaire, qui nous ouvre beaucoup moins les portes des prisons, qui trouve que le socioculturel, c'est beaucoup moins intéressant que de faire de l'éducation. Et surtout, on leur a dit qu'on avait un devoir de témoignage, c'est-à-dire que ce qu'on voit en prison, on le relaie. Et généralement, c'est assez mal accepté. Donc nos relations avec l'administration pénitentiaire, c'est un peu tendu. Et ensuite, on a un très gros pôle de formation où on s'auto-forme sur tout un tas de questions, parce que la prison, c'est pas simplement s'intéresser uniquement aux conditions d'incarcération, c'est aussi se poser des questions sur le racisme d'État, sur le sexisme, parce que tout ce qui se passe en prison, c'est exacerbé. En fait, tout ce qui se passe dans la société, c'est souvent exacerbé en prison. Et donc, ça nécessite de notre part de se poser des questions. Moi, personnellement, je me suis intéressée au GENEPI parce que je suis étudiante en droit en fin de formation. Et généralement, c'est très théorique. On aborde très peu les questions carcérales. Et ça a fini par me déranger. Donc, j'ai commencé à m'intéresser personnellement à ces questions. Parce que moi, je me destine à devenir magistrate et je vais être donc directement confrontée à ces populations et pourquoi pas un jour prononcer des peines de prison. Donc c'est important de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Donc au cours de mes pérégrinations, je suis tombée sur le GENEPI et donc c'est là où je me suis rendue compte qu'on intervenait beaucoup moins en détention et qu'on faisait beaucoup d'interventions auprès du public. Et j'ai trouvé que c'était d'autant plus intéressant parce que finalement, une fois que ces personnes vont sortir, elles vont devoir se confronter à la société civile, qui peut être extrêmement rude une fois qu'on sort de prison. Et donc c'est important qu'ils aient un autre accueil de ces personnes.
Donc contrairement à Alice, en fait, moi, je ne suis pas du tout dans un domaine qui est proche du monde prison-justice. Je m'intéresse depuis longtemps. J'essaie de m'intéresser en fait, au tout ce qui est un peu central dans notre société. Je crois qu'aujourd'hui, la prison, c'est quelque chose de très important, qui prend une place importante dans notre société, en bien ou en mal, et que comme beaucoup de gens, en fait, j'y connaissais très peu de choses, même si on entend énormément parler, j'y connaissais finalement assez peu de choses, et qu'il y avait beaucoup de choses que je croyais connaître qui étaient souvent fausses. Et donc j'ai rencontré le GENEPI, en fait, justement, sur une activité de sensibilisation, où je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait plein de choses qui ont été remises en question, en fait, que j'ai apprises. Et donc j'ai intégré le GENEPI, moi, plus pour, d'abord, pour moi, pour apprendre, pour découvrir, pour comprendre ce que c'était vraiment la prison, la justice, le lien entre les deux, et puis qu'est-ce qui se passe, en fait, derrière les murs. Et après, en fait, du coup, redonner un peu ce que le GENEPI m'avait apporté, c'est-à-dire aller faire moi-même des interventions, de la sensibilisation du public, pour partager un petit peu ces connaissances sur le monde prison-justice qui sont souvent très mal appréhendé en fait par nous parce qu'on n'est pas du tout confronté, on n'est pas du tout proche de ces questions-là.
Alors, malgré le fait qu'on soit une association assez ancienne, on se confronte à un certain nombre de problèmes. On a assez peu de moyens c'est souvent on vit grâce aux subventions qui diminuent d'année en année et du coup on est obligé de faire beaucoup de choses avec les moyens du bord. Notamment, on est une association nationale, nos week-ends de formation peuvent être nationaux, ce qui implique souvent de faire déplacer les bénévoles, de les loger, et tout ça, on arrive de moins en moins à le faire, surtout que cette année, notamment, nous avons perdu une de nos très grosses subventions, qui est donc la convention avec l'administration pénitentiaire, qui n'a pas voulu nous renouveler, et donc on est en dialogue pour essayer de la récupérer. Il peut y avoir une sorte de frustration parce que comme on peut développer peu de moyens, on a tendance à toucher un public qui est souvent déjà sensibilisé, donc un public qui est du milieu associatif. Lorsqu'on fait des ciné-débats, c'est des gens qui ont déjà la démarche de venir. Pareil, les professeurs, ce sont souvent des professeurs qui ont entendu parler de nous, qui sont des anciens bénévoles ou qui sont touchés directement par ces questions et qui viennent nous chercher. Et il y aurait d'autres milieux qui seraient intéressants, enfin, de mon point de vue, et là c'est vraiment personnel, mais je pense que ce serait intéressant de toucher également le milieu de l'entreprise, les employeurs, c'est-à-dire des personnes qui seraient susceptibles de permettre d'engager et de réinsérer ces personnes qui généralement ont un très très mauvais accueil et n'arrivent pas à retrouver d'emploi. Par exemple, moi, à titre personnel, lors d'une journée de sensibilisation à Bordeaux, nous avons entrepris d'aller voir le public dans la rue et de leur demander d'écrire un mot pour les détenus. Et en fait, l'idée était de prendre tous ces mots et de les envoyer en prison, de faire des cartes postales, des cartes de vœux. Tout d'abord, ces cartes ne sont jamais rentrées en prison car on nous a refusé l'accès à la prison alors qu'on ne demandait pas à rentrer, on demandait à faire rentrer des cartes qui étaient lisibles. Ils l'ont refusé, alors qu'on avait récolté plus de 500 mots, enfin bon, je passe. Mais surtout, il s'avère que pendant cette journée, je suis tombée sur un ancien détenu complètement par hasard. Et cette personne, du coup, on a pris un peu de temps pour discuter, et il est ressorti plusieurs choses, c'est que malgré les conditions très compliquées de détention, le côté rude de l'enfermement, il est resté plusieurs années, c'était même pas contre ça qu'il était en colère. Moi, il me dit vraiment, j'étais en colère parce que ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté de se battre pour améliorer nos conditions. Les institutions publiques ont cessé. Et le fait que vous, qu'il y a encore quelques personnes qui nous ont pas laissé tomber, bah, c'est ça le plus important. Et pour lui, c'était plus compliqué que, enfin, c'était plus dur à vivre que les rats, le manque d'hygiène, tous ces trucs. Et surtout, le mot qu'il a accepté donc d'écrire un mot aux autres détenus. Et ce mot, c'est moi qui l'ai écrit, parce qu'après plusieurs années en détention, il n'a pas eu la possibilité d'apprendre à écrire, après plusieurs années. Donc, pour moi, ça pose la question de savoir à quoi sert la prison, notamment en tant qu'outil de réinsertion, si après plusieurs années en prison, on n'a même pas été capable de leur apprendre le béaba, qui est l'écriture. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Beaucoup.
Merci, c'était très intéressant. Moi, j'ai une question par rapport du coup au Genepi. Est-ce que vous posez des questions ou est-ce qu'il y a des réflexions autour de la question de la réforme des sanctions par rapport de la justice, comment justement remettre entre guillemets dans le droit chemin les personnes qui dévient aux normes légales qu'est-ce que vous pensez de la prison en tant que institution qui est censée permettre à la société de se réguler?
Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que rien qu'au cœur du Genepi, on a des positions qui sont très diverses. On va de personnes qui sont pour l'abolition totale de la prison avec des gens qui sont juste pour la réformer. C'est ce qui fait d'ailleurs que nos week-ends de formation sont assez riches parce qu'on confronte nos idées. Je pense que je peux te répondre qu'à titre personnel parce que c'est compliqué de répondre pour le Genepi. Puis après, je pense que tu peux peux répondre aussi. Quand tu parlais des réformes, tu parles du plan prison qui arrive.
Je parle de...
Parce que, alors oui, effectivement, il y a un certain nombre de peines qui ont été mises en place pour, enfin, qui représentent des alternatives à la prison. Et généralement, elles ont une tendance à se multiplier sans être pour autant appliquées par les tribunaux, qui ne savent, généralement, on ne sait pas que les magistrats, quand ils se retrouvent face à leur feuille de route, ils voient qu'il n'y a pas de suivi derrière, et ils se disent ça va servir à rien. On va retourner à la peine classique qu'on connaît, qui est la prison. Et donc, ce manque d'écho de ces peines, on peut les multiplier dans les textes, mais il faut qu'en pratique, les magistrats puissent les mettre en place. Et tant qu'on ne va pas réformer également de ce côté-là, qu'on ne va pas mettre du personnel qui va permettre de réinsérer, on peut faire autant de textes qu'on veut, ça ne servira à rien. Et c'est la même chose pour la prison, qui favorisait comme ça l'enfermement, sans que... à l'issue, il y a un suivi, au moins un suivi de réinsertion, voire socio-éducatif, pour permettre à la personne d'avoir accès à tout un tas de formations et ce genre de choses. Ça ne servira à rien les sorties, ce qu'on appelle les sorties sèches. C'est-à-dire qu'après plusieurs années de prison, on peut t'ouvrir la porte et te dire, bah voilà, salut. Et donc, le milieu social va énormément jouer, et généralement, c'est des personnes qui sont assez pauvres, qui sont assez isolées, qui n'ont pas d'emploi à la sortie, qui n'ont pas forcément de logement, qui n'ont pas forcément accès au foyer, parce que pareil, le cas de la surpopulation, tout ça, fait que bah, les foyers sont pleins. Donc du coup, c'est des personnes qui se retrouvent face à une grande misère, même une fois sorties, et forcément, bah, on se retrouve face à des cas de récidive importants. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question.
Mais ma question n'était pas très précise.
Mais du coup, il y a un autre bout.
Non, mais en fait, je voulais savoir s'il y avait des réflexions autour des justices restauratrices.
Au sein du GDB,
ouais.
Oui, alors c'est ce que. Oui, en fait, on a énormément d'axes de réflexion. En fait, en fonction des années, on a des week-ends entiers consacrés à des thématiques. On fait des prises de position. Et selon les années, en fait, c'est très variable. Il y a eu des années où c'était les femmes en détention, il y a eu d'autres années, c'était les peines alternatives. Donc oui, on y réfléchit, oui, on en parle, et depuis 42 ans, on a abordé énormément de thèmes.
Pour relativiser quand même rapidement ce qu'on arrive à faire, c'est que entre nous, on réfléchit beaucoup, on essaie de produire des idées et de créer, mais derrière, en fait, on n'a pas spécialement d'écho. Et du coup, on émet des opinions, on s'y tient entre nous, mais derrière, ça ne nous permet pas du tout de faire entendre ces opinions à l'administration pénitentiaire. Et c'est simplement des opinions qu'on essaye que nous on défend et donc qu'on présente dans nos interventions auprès du public.
Est-ce qu'il y a un lien avec le pouvoir politique ? Enfin, est-ce que vous émettez des... Non.
On est sans lien avec...
Moi j'avais une petite question aussi. En fait, quand j'étais en école d'ingé, j'avais un copain qui donnait des cours justement au Genepi, donc ça fait pas si longtemps, même si je suis peut-être un petit peu vieux maintenant, mais du coup j'étais surpris en fait de voir que le Genepi, j'ai vu dans les news récemment en fait qu'il y avait justement le ministère qui avait retiré la subvention là au Genepi. Du coup j'étais surpris d'apprendre cette réorientation en fait du Genepi, et en fait du coup j'avais deux questions. Enfin, la première elle est un peu provocatrice, mais en fait, je pense que la question de la prison, c'est une cause qui est très dure à défendre, en fait, parce que je pense que pour dégager des subventions, en fait, la prison, c'est peut-être ce qui passe en dernier par rapport à d'autres choses comme l'éducation, la santé, choses comme ça. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est pas un peu contre-productif d'arrêter cette mission qui était celle du Genepi de donner des cours, sachant que les gouvernements, s'ils doivent faire des choix, ils vont clairement pas... après ça dépend en fait quel gouvernement, on est d'accord, hein, mais vont clairement pas donner la priorité à donner les moyens aux prisons, quoi. Et la deuxième question, c'était en fait, j'ai vu qu'il y avait l'Observatoire des prisons en fait qui existait et qui avait depuis longtemps une position assez critique sur ce qui se passait dans les prisons. Et du coup, en fait, du coup, vu cette réorientation du Genepi, est-ce que vous allez vous rapprocher d'eux ou est-ce que c'est des missions différentes? Enfin voilà, c'est, quel est le rôle de chacun en fait. Mes questions.
Donc l'évolution, l'abandon de l'enseignement de manière officielle au sein du GINEPI, il est assez récent, puisqu'il date de 2012, ça fait erreur.
En fait, même s'il y a un abandon, on va dire, officiel, parfois on est contraint de le maintenir pour... Pour vous donner un exemple concret, nous intervenons pour l'instant encore en quartier trans à Fleury-Méringis. Et c'est, en fait, on est en train de nous retirer petit à petit tous nos ateliers en Ile-de-France. Et sur celui-là, on a accepté, étant donné les conditions drastiques dans lesquelles ces femmes sont, de requalifier ça en atelier éducatif pour pas qu'on nous l'enlève parce qu'elles sont dans des conditions d'incarcération, c'est-à-dire elles sont en quartier de haute sécurité. Elles sont 23 heures sur 24 en isolement. Elles ont des relations très dures en raison de leur condition de personne trans avec les matons. Et en fait, toutes ces conditions très difficiles font qu'on ne peut pas abandonner l'atelier, sinon l'isolement va être quasi total. Donc là, sur certains points, on accepte de faire des concessions. On est obligé.
Mais voilà, donc effectivement, on fait des concessions au niveau local parfois, mais sur un plan national et général, le GINEPI a pris cette décision en fait, qui était effectivement dangereuse de choisir politiquement de dire qu'on allait arrêter de faire des interventions, de manière générale, des interventions éducatives. C'est peut-être stratégiquement parce qu'il était le plus souhaitable, parce que ça nous a peut-être. Peut-être. Mais le fait est qu'on a. En plus de ce qu'on apporte aux personnes détenues, on rentre dans les prisons, on a un devoir, enfin, je crois qu'on a un devoir de témoignage sur ce qu'on y voit, et en fait, on est de fait une association qui est politique, et c'était un acte politique d'arrêter de faire ces interventions éducatives et de mettre l'État devant ses responsabilités, de lui dire que ça, c'était pas à nous, c'est pas des étudiants bénévoles de faire de remplir cette mission, et d'ailleurs de la remplir de manière la plus optimale possible. On le faisait du mieux qu'on pouvait. Mais c'était évidemment moins bien que quand c'est des personnes qui sont enseignantes qui faisaient ce travail-là. Donc c'est bon, voir peut-être si c'est pas forcément.
En fait, simplement, c'est une obligation légale normalement de leur octroyer des cours, et le fait qu'on se retire de ces ateliers d'enseignement ne doit pas leur enlever ces heures. Nous, on vient, on se met sur les heures de socio-culturel, qui sont également une obligation mais qui est moins respectée. Et les professeurs doivent, eux, être affectés à ces heures. Normalement, on ne doit pas créer un manque en partant. Donc c'était une position politique et normalement, ils ne doivent pas être lésés. Alors bien évidemment, je suis obligée de dire normalement parce qu'évidemment, il y a des cas où, comme je vous dis, ils n'y ont pas accès. Mais souvent, ces cas-là, c'est souvent des prisons dans lesquelles même nous, on n'arrive pas à rentrer, généralement.
Donc je crois que ça répond à la première question, et donc en fait, enfin, rapidement sur le EP, si t'es pas d'accord. Là en fait c'est assez récent la perte de notre convention, ça va transformer de fait probablement le GINEPI, et en fait on est vraiment en grosse discussion là-dessus, on sait pas dans quelle direction on va se rendre, on est encore en train d'essayer de négocier cette convention et de récupérer cette subvention pour continuer à faire, rester sur le système qu'on avait avant, donc on sait pas encore comment le GINEPI va se transformer, s'il va se transformer.
Oui, alors moi aussi j'ai deux questions. Merci. J'ai moi aussi deux questions. La première question, c'est sur la partie réflexion et lobbying. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'Amnesty International, par exemple, qui fait le même travail sur. Qui essaye de faire le même travail sur le respect des conditions humaines en prison? Et l'autre partie de la question, c'est du coup, puisque vous êtes plus habilité à être au début, est-ce que vous n'avez pas envie de vous mettre à la fin? C'est-à-dire d'agir au moment où ils sortent.
Alors, pour la seconde question, qui est du coup en lien... la perte de notre convention est officiellement... ne doit pas nous empêcher d'intervenir en prison. Le problème, c'est que pour l'instant, les directions du cabinet de Nicole Belloubet ne sont pas très claires... Interprétation diffère selon les directeurs de prison. Mais même avec notre convention, on avait déjà du mal à rentrer. Notre rôle, après, c'est pas la réinsertion. Il y a beaucoup d'associations qui sont déjà sur ces questions-là, et on n'a pas les moyens ni financiers, et puis on est un milieu étudiant, donc c'est très compliqué de se saisir de questions qui sont très sensibles. On n'est pas forcément formé, on n'a pas forcément les moyens de se former, donc on ne se saisit pas de ces questions. Nous, on essaye de leur apporter des conditions un peu meilleures. C'est pour ça que quand on fait du socio-culturel, on essaye que ça soit des ateliers dans lesquels, bah, si jamais l'atelier dérive et que c'était pas ce qu'on avait prévu, on les laisse faire. S'ils ont juste besoin de parler, bah, ils parlent. Et c'est pas à nous de diriger. On leur apporte un contact humain, en fait. Et,
c'est un prétexte, à la limite. Le thème de travail est presque un prétexte.
Ça, en fait, ça dépend vraiment des personnes. Enfin, il y en a, on a fait des ateliers photos, ils se sont investis énormément, et puis il y a des moments où ils ont juste besoin de parler, et puis parfois, on va avoir 8 personnes détenues, et puis la semaine suivante, il va y avoir une seule qui va venir. Ben, on s'adapte. Mais on n'est pas... en fait, notre action dans la réinsertion, ça va être dans notre action de sensibilisation. Voilà. C'est-à-dire permettre que leur retour dans la société civile soit moins violent. Quand on va vers eux, on leur permet de garder ce contact avec la société civile et faire que la société civile soit moins hostile. Mais il y a déjà beaucoup d'acteurs de la réinsertion et on ne ferait que cumuler. Par contre, j'ai totalement oublié la question sur Amnesty.
Est-ce que vous travaillez avec Amnesty, par exemple, pour toute la part?
Non. Il n'y a pas spécialement... Alors, je ne saurais pas vous répondre exactement pourquoi non, mais... On travaille en partenariat parfois avec des associations sur certains événements, mais généralement, on travaille entre nous, on est déjà nombreux, c'est déjà compliqué. Je ne saurais pas mieux vous répondre, désolée.
Pour répondre un petit peu plus sur les questions nationales, il y a vraiment sur les enjeux nationaux, sur les lois, sur les choses comme ça. Là, il y a de l'interassociatif, mais sur le travail dans les prisons, Amnesty n'est pas du tout spécialisé là-dedans. Donc c'est vraiment juste sur les questions nationales où il peut y avoir des... Voilà, sur les questions de lobbying, là souvent c'est interassociatif sur plein de choses.
Merci. J'ai une question. Donc la maladie psychique, elle est présente en prison. Je voulais savoir si vous saviez un peu les pourcentages et comment elle était traitée là-bas.
Oui, elle est évidemment présente, très présente en prison. Le problème, c'est que il va y avoir une distinction entre les maladies, on va dire, reconnues, traitées, où ils vont être dans des quartiers spéciaux, et puis ceux où ils vont être en quartier classique. Et donc comptabilisés comme des détenus classiques. J'aurais du mal à vous parler du traitement lui-même, c'est le traitement, la santé en prison est une question vraiment compliquée, parce que ça va dépendre des moyens de chaque prison. Et par exemple, il va y avoir des prisons avec des psychologues qui sont à disposition, mais qui en même temps sont très difficiles d'accès. Puis d'autres prisons où il va carrément pas y en avoir, et ça va nécessiter des transferts. Et donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question en termes de pourcentage fixe, je pense. Après,
Pour préciser, quand on dit qu'il y a des psychologues à disposition, mais c'est compliqué de les atteindre, le problème, c'est qu'en fait, quand une personne incarcérée a un souci quelconque, pouvoir aller voir, de manière générale, un médecin, ça dépend complètement de la volonté, de la bonne volonté des personnels pénitentiaires. Et donc en fait, si les personnels estiment que la personne incarcérée n'a pas suffisamment mal au ventre, à la tête, ou n'est pas suffisamment malade, ou qu'elle simule, et bien dans ce cas-là, ils ne vont pas l'emmener, ils ne vont pas le déplacer jusqu'à l'infirmerie. Et c'est malheureusement quelque chose d'assez courant. C'est là que, même s'il y a des psychologues qui théoriquement sont à disposition, en fait, dans les faits, pas forcément évident d'aller effectivement les voir.
Quand vous parlez des problèmes psy, vous parlez également genre de tous ceux qui sont arrivés en prison à cause de ces problèmes psy ou qui les ont développés à l'intérieur?
Ah bah les deux. Hein.
D'accord.
Avec les hôpitaux qui sont blindés, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent plutôt que de se retrouver à l'hôpital, se retrouvent en prison.
Ah oui, mais absolument. D'ailleurs. Par exemple, on a eu un cas d'une personne qui a subi de graves décès dans sa famille. Elle était en détention et a été extrêmement affectée par le deuil et a donc fait une demande pour avoir accès au psychologue. Cette demande, il y a eu droit au bout de 6 mois. Et il a eu une pochette avec des médicaments pour traiter donc son deuil. Donc ça laisse entrevoir la qualité de l'accès aux soins en prison.
Oui. Ce que je comprends, c'est que bah, vous avez des difficultés, des grosses difficultés. De sous, mais aussi pour tout simplement agir, enfin faire ce que vous souhaitez faire. Donc, vous réfléchissez entre vous, mais effectivement, ce que vous n'avez pas beaucoup d'écho, pas beaucoup de soutien, pas, enfin voilà, assez marginalisé, j'ai l'impression. Et est-ce que vous vous êtes tourné ou est-ce que vous avez des contacts? Alors, on parlait d'Amnesty, mais avec les organisations étudiantes, pour le coup. J'ai un exemple précis qui n'a rien à voir, hein, mais au niveau du commerce équitable, les Max Havelaar ou d'autres structures se sont tournées pour essayer de diffuser la bonne parole ou leur message dans le milieu étudiant, déjà, ne serait-ce que ça, en disant bah, c'est les futurs responsables, etc. Voilà. Est-ce que vous avez essayé d'aller vers les organisations étudiantes, de vous faire entendre d'elles et de voir comment elles pouvaient vous aider, vous... Enfin, voilà.
Alors en fait, auprès de ces associations, on a déjà un écho, en fait, généralement. On n'est pas aussi marginalisé que ça. En fait, c'est vraiment toucher la population autre. C'est les professionnels, c'est ce genre de personnes qu'on a du mal à toucher. Et donc, généralement, on essaye de passer par des moyens de campagne, des moyens que, par exemple, Amnesty International peut utiliser, des campagnes choc. Et c'est là où, généralement, on se confronte, du coup, à l'administration pénitentiaire qui nous trouve trop critiques. Parce qu'au début, ils nous voyaient généralement comme des partenaires. Ça dépend ce qu'on entend derrière partenaire. On n'est pas là pour leur faciliter la vie. On est là pour changer les conditions des personnes incarcérées. Donc auprès du milieu étudiant, on a un écho. Auprès des milieux associatifs, on a un écho. C'est auprès du reste qu'on a du mal. Et moi, ce que je déplore à titre personnel, c'est vraiment auprès des employeurs parce qu'on arrive à intervenir dans les facs, dans les lycées, dans les collèges, sans aucune difficulté, même quand nous, on vient proposer nos projets. Mais c'est vrai que si on arrive dans une entreprise qui a énormément de possibilités de les employer, avant d'avoir un ticket d'entrée, je vous souhaite bonne chance et d'être convaincant.
Sur les partenariats qu'on peut avoir avec les associations, enfin, je vois différentes formes, enfin, j'imagine différentes formes qu'on pourrait avoir. Et donc sur ce qui est, par exemple, faire des cafés débats avec les associations, ça pourrait être ça, par exemple, ça que vous pensiez ou...
C'est pas à ça que je pensais.
C'est vraiment sur l'agir.
C'est qu'elle vous aide à avoir plus d'écho. C'est-à-dire qu'elle vous soutienne ou qu'elle soutienne votre cause ou qu'elle s'en fasse l'écho aussi. Que ça aille au-delà et qu'elle dise bah voilà, il y a un vrai problème, qu'elle fasse aussi des communiqués de presse, elle. Parce qu'elles ont plus d'écho peut-être que vous aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est en ce sens-là de vrais partenariats.
Oui.
De les rallier à votre cause, quoi.
Voilà. Oui, bien sûr. Eh bien, donc, dans ce cas-là, sur ce moment ponctuel-là qu'on a, donc le problème sur la convention qu'on a, évidemment, en fait, il y a énormément d'acteurs associatifs, politiques, etc., qui sont en fait à nos côtés et qui nous soutiennent. On a du coup, ben, dans le cadre de cette convention, enfin de la négociation de cette convention, engagé une campagne de presse et on a tous et toutes contacté énormément de gens dans plein d'associations, notamment étudiantes, mais en fait civiles d'une manière générale. Et ça, oui, bien sûr, donc ça c'est sur quelque chose de ponctuel et d'une manière plus générale sur notre quotidien, ben, régulièrement, notamment en début d'année, on se relaie hein, de manière. Enfin, on est quand même dans le maillage associatif, bien sûr, et on relaie les appels les uns les autres et nos appels aussi sont relayés. Et j'ai vu Moi, j'ai découvert le Génépi via une autre association qui avait partagé, bah, en l'occurrence, un événement que le Génépi organisait, enfin, des choses comme ça. Donc oui, bien sûr, on fait quand même partie, on n'est pas du tout... on est dans le maillage associatif.
Je ne sais pas si vous avez cité les prisons dans lesquelles vous êtes intervenu. Est-ce qu'il y a Bois d'Arcy, par exemple?
Alors actuellement, en Île-de-France, nous avons...
Je suis,
Je suis désolée.
Non, non.
Actuellement, en Île-de-France, on a plus qu'un atelier à Fleury, car toutes les autres prisons nous ont fermé les portes suite à la perte de la convention. Donc la réponse est non.
Vous avez dit ce que ça veut dire, Génépi, c'est un signe?
Oui, je l'ai dit au tout début, mais du coup, l'acronyme n'est plus tellement d'actualité parce que c'est le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Et l'enseignement est un peu tombé.
Et donc, avec le choix politique de transformer l'objet de notre association, on a aussi transformé notre nom. Et donc, maintenant, on s'appelle juste Génépi, comme un mot, comme le mot. Voilà. Et c'est plus, originellement, c'était, ça avait un sens, mais aujourd'hui, c'est plus réellement le cas.
D'autres réactions, questions, témoignages? Ben moi j'ai bien une petite question. Comme vous vous adressez aussi au grand public, quelle est la réaction que vous avez de ces personnes-là? Est-ce qu'elles comprennent votre combat? Pourquoi vous sensibilisez à la question des prisons?
Je vais juste distinguer selon les publics. Lorsqu'on intervient en fait, ce qu'on appelle les ISP scolaires, donc les sensibilisations auprès des écoles, généralement, on peut avoir un assez bon accueil, ils sont assez à l'écoute. Par exemple, on intervient tous les deux à Stein auprès de collégiens qui sont directement visés par ces questions, parce que souvent, ils ont des proches eux-mêmes détenus. On subit énormément de contrôles de police, des frères en garde à vue, donc ils sont très sensibilisés sur les questions. Et on pourrait croire que la communication serait compliquée parce qu'il y aurait un refus de connaître les conditions dans lesquelles leurs proches sont. Et en réalité, on a un très très bon écho. Et moi, généralement, j'ai toujours eu une grande écoute et ils s'intéressent vraiment à ces questions. Pour ce qui est du grand public, ça va vraiment dépendre. Moi, j'ai eu des réactions très très violentes de la part de personnes qui me disent qu'ils l'ont mérité, qu'ils peuvent être entourés de rats et crevés, c'est pas grave, et qu'ils préfèrent s'intéresser aux personnes sans-abri, à toutes ces questions, plutôt que les personnes détenues, puisque ayant commis une erreur, ils méritent ces conditions. Généralement, face à ça, on essaye de poser le débat et de remettre déjà la réalité sur qui est réellement en prison. C'est pas forcément des grands criminels. Les trois quarts du temps, c'est des petits criminels, des petits délinquants. Et ça les calme très rapidement, en fait, parce que du coup, ils revoient un peu leur jugement. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est le grand criminel pédophile qui mérite de mourir. Alors que non. Généralement, ce sont des gens qui sont là pour des infractions contre les biens, et donc tout d'un coup, ils leur veulent un peu moins de mal. Donc on peut avoir des réactions assez violentes, et ça nécessite de déconstruire un peu tous les clichés qu'ils ont sur la prison, donc ça peut être assez long. Mais sur tout ce qui est scolaire, généralement, ça se passe assez bien. Après, les ciné-débats, ou ce genre de trucs très organisés, où il y a des places, où on fait des annonces, donc ils viennent de leur propre chef, là, ils sont intéressés par les questions et donc on a beaucoup moins de réactions violentes et ça se passe généralement assez bien.
Du coup, si vous voulez proposer une question ou une thématique de discussion.
Donc pour notre question, on va revenir sur l'anecdote que Ali citait tout à l'heure de la personne incarcérée qu'elle avait rencontrée en sensibilisation du public. Et donc on voulait vous laisser réfléchir sur l'effet de la prison sur la réinsertion et comment, comment organiser réellement la réinsertion. Enfin, je sais pas si tu veux
le... En gros, la prison comme outil de réinsertion, est-ce que la prison est réellement peut permettre la réinsertion et finalement, ça, à plus large échelle, ça oblige à repenser le sens de la peine. Quel doit être le sens de la peine? Est-ce qu'il doit être punitif? Est-ce qu'au contraire, il doit permettre une réparation? Voilà, donc plusieurs questions en fait. Merci. Merci à vous.